9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
C'est un retour qui aurait dû se passer autrement. 7 ans que Yoann Lemoine, connu sous le nom de Woodkid, avait délaissé le son et les scènes pour se consacrer au cinéma. 7 années depuis le succès du flamboyant premier album The Golden Age. Quand enfin a été annoncée une grande tournée mondiale accompagnant ses nouveaux titres, le Covid était passé par là. Bonjour Woodkid.
Bonjour.
Drôle d'histoire. Hein,
Drôle d'histoire.
Ce virus a empêche encore bien des artistes, en tout cas pour la scène. Du coup, vous avez des tonnes de fourmis dans les jambes. Comment ça se passe ?
Du coup, oui, je pense à ce que pourrait être une réalité parallèle. En tournée, et puis voilà, je viens vous voir à la place, c'est pas mal.
Ah ouais, au moins, moi ça me va. Hein.
Ouais.
Car il est avec nous en direct dans le studio. Comment on peut le prouver ? Ben non, on n'a pas le prouvé. Ben regardez Europe1.fr. Surtout que vous l'avez, d'après ce que j'ai lu, cette scène, ce live show, vous l'avez conçu, et tel que je vous soupçonne, vous l'avez conçu dans les moindres détails. Il est prêt, il est là.
Il n'est pas prêt.
C'est pas vrai. Ah ouais ?
Ben non, parce qu'en fait, on aurait dû justement être en résidence pendant la période de confinement.
Où ça ?
Je ne suis pas sûr, à La Rochelle, je crois qu'on devait le faire. Et voilà, donc ça ne s'est pas fait, donc ça se fera après.
Oui.
Tout est un petit peu repoussé, mais ce n'est pas grave, ça donne plus de temps pour se préparer.
Ouais, d'autant que vous êtes du genre obsessionnel, vous l'avouez.
Oui, et puis je suis du genre à prendre mon temps aussi.
Oui, ça on a remarqué. Bon, en même temps, c'est votre tempo, hein, ouais. C'est pas très grave. Votre album est prêt, on a déjà 2 titres dont on va parler. On a entendu parler d'une promesse, d'une sortie de cet album cette année, vous confirmez ?
Je confirme.
Quand ?
Ah, je sais pas, parce que ça, on pousse tous les jours.
Non, c'est vrai, vous savez pas.
Bah non, c'est très dur de manœuvrer dans tout ça, mais on va y arriver.
Ouais. La sortie de cet album, de ce deuxième album, est fonction de la pandémie ?
Bah oui, c'est l'année du flou, donc c'est plutôt intéressant.
Oui, mais pour un album, il circule quand même.
Bah oui, mais ça va venir.
Ah,
vous la voulez cette date,
hein. Bah j'aimerais bien, ouais.
Non, pour l'instant, on n'a pas le droit de le dire.
Ah d'accord. Mais si on dit à l'automne, on est dans le
ouais,
vrai.
Ouais, on est dans le bon.
On est dans le bon. Le titre, on l'a ?
Le titre de l'album,
ouais.
Ah là là, dis donc, vous attaquez fort, là, dès le matin, je viens de me réveiller.
Bon.
Le titre, on l'a, ouais.
Ouais, je suis contente que vous l'ayez remarqué.
Ouais, ouais, il est, je l'aime bien, il est cool.
Bien
ouais, il est bien.
Et... non, vous pouvez pas.
Non, je peux pas non plus, parce qu'on a prévu quelque chose autour de l'annonce de l'album.
Ah bah oui.
Parce qu'on prévoit plein de choses.
Bah, j'imagine des petits...
Voilà, on adore les petits teasers, les petits trailers, les petits...
Voilà. Combien de morceaux, on peut dire ?
11.
Ah, une
ça,
info
c'est exclu.
Quand même ! Et exclu. 11 albums. 11 albums.
11 albums, non, quand même pas, non. J'en suis pas là.
11 titres sur le prochain album de Woodkid. On va écouter ensemble le second single. Il est accompagné, comme souvent, d'un clip spectaculaire, parce que le son, c'est une chose, mais vous êtes aussi un homme d'image. Voici Pale Yellow. Woodkid est en direct sur Europe 1 ce matin. Woodkid, c'est normal. Hein.
Ouais.
Non, non, il n'y a pas eu un bug.
Non, des interférences, des problèmes de communication, tout ça, ouais. ça me tient à cœur.
Que raconte Pale Yellow, Woodkid ?
Il parle de l'addiction, mais c'est large. Ça peut être vu de plein de manières possibles. Et puis, il parle de l'idée de la résilience, de l'émergence de la lumière dans cette noirceur-là.
Mm-hmm. Mais l'addiction, les drogues, les substances illicites, ou alors aussi l'accoutumance à quelqu'un ?
Ça peut être ça. Et en particulier dans cette chanson, où il peut y avoir presque une lecture un peu sexuelle du morceau. Dans les textes.
D'accord.
C'est intéressant.
Si on le repassait là pour avec cette lecture là, effectivement, si vous chantez l'envie et la certitude, hein, il y a aussi ça de vous sevrer de cette addiction, qu'elle soit amoureuse ou pas. Comment vous savez que vous en sortez à un moment donné ?
Ah ben c'est là qu'est toute l'ironie du morceau, c'est que le morceau dit ce soir c'est la dernière. Alors ça peut être la dernière prise, la dernière relation. Et demain, my love for you will be gone. Mon amour sera parti. Mais il y a quelque chose d'ironique, parce qu'on sait très bien que c'est dans ces moments-là où on dit que ça partira, que ça revient derrière.
Ouais, mais il y a une volonté de se défaire de cette addiction.
Ouais, oui. Il y a cette idée de besoin de résilience, de besoin de reconstruction. Ça, c'est un fil qui est très présent dans l'album.
Mm-hmm. Et qui est en lien avec l'époque
Ouais.
Même si ça a été écrit avant.
Ouais.
C'est ça un artiste ?
En tout cas, je pense que quand on fait la musique que je fais, dans la temporalité que j'ai décidée, qui pour moi est un petit peu politique, cette temporalité-là, par rapport à l'époque, oui, il faut beaucoup de résilience. Il faut s'accrocher parce qu'on vous ramène toujours au fait qu'il faut aller plus vite, qu'il faut faire de la musique pour des gens plus jeunes, qu'il faut s'adapter à un certain marché.
Qui vous dit ça ?
C'est dans l'air, c'est la réalité. Même sans qu'on me le dise, c'est quand on est artiste, on regarde ce qui se passe autour. Donc, on voit la réalité aujourd'hui de l'industrie musicale, de la manière dont le streaming se met en place, etc. Ça demande un petit peu de, je crois, un peu de courage pour ne pas toujours se conformer à ce qu'on entend à la radio, à ce qui marche, à ce qui est visible sur les réseaux sociaux, à la manière dont on va aujourd'hui faire de la musique pour faire décorer TikTok, quoi.
Mm-hmm. Voilà. Oui, c'est ça, TikTok. Ouais. On a démarré un petit peu sur les chapeaux de roue, on va souffler un peu. Woodkid est dans Culture Média ce matin et l'on revient très 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 bientôt.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et l'on a entendu, il y a 2 minutes, le deuxième nouveau titre de Woodkid qui annonce l'album, qui sort quand, vous me l'avez dit, mais je m'en souviens plus.
Vous essayez de me piéger. En 2020.
Oui, c'est ça. Pour Pale Yellow, ce clip est très particulier. C'est votre visage en gros plan qui tourne sur lui-même, qui se déforme sous les effets spéciaux et qui dévoile votre machinerie à l'intérieur. Ça a l'air compliqué là-dedans, non ?
Compliqué. Oui, oh, bon, je m'amuse avec ces thèmes-là, mais j'aime bien l'idée d'avoir une certaine ironie sur ce que j'ai pu devenir après mon premier album, qui était... Voilà, cet album, la manière dont je construis les choses, il y a quelque chose de l'ordre de la machinerie, de la machine, de la petite entreprise. Ça me plaisait assez, l'idée de m'amuser de ça, en fait.
Mm-hmm. Merci pour la transition, Woodkid et les machines. C'est précisément votre sujet, Damien Caprespine.
Exactement. Un piano qui galère, une voix d'opéra passée à la moulinette, un vibrato qui se tord, des ralentissements forcés, des sons samplés, des voix altérées. Votre musique, Woodkid, est un grand 8 émotionnel. Votre nouveau titre, Pale Yellow, n'est pas seulement une plongée dans nos addictions, c'est aussi une virtuosité technique, une mécanique implacable, une rotative qui nous emporte et nous entête. Vos compositions jouent sur le contraste, le bien contre le mal, le mou contre le dur, l'élévation contre la rechute, des montagnes russes auditives où vous mélangez pêle-mêle des cordes voluptueuses, des grincements strident, un chant sous forme de morse et vos voix de tête, de poitrine ou la plus grave. Il y a dans votre musique une transe, quelque chose de cinétique, des attaques agressives qui nous amènent vers une lumière et une plénitude. Chez vous, le minéral croise l'organique, le sombre et le lumineux s'entrechoquent. On chante à 2 octaves d'écart. Vos chansons sont des bolides, tout droit sortis d'une saga Mad Max. Vous aimez le fer, la ferraille, la rouille qui s'incruste au fil du temps, comme sur des sculptures de Jean Tinguely, artiste suisse, créateur de machines bruyantes que vous êtes allé enregistrer dans un musée d'Amsterdam et qui servent de rythmique à Pale Yellow. Vous dites être fan de musique minimaliste, de Steve Reich ou de Philip Glass. En écoutant ces rotatives, moi je pense aussi aux images de Björk dansant et chantant dans l'usine du film Dancer in the Dark. Chez vous, la répétition ne prend plus la tête, elle élève, elle donne de la force. Vos titres sont des machines cyber et circulaires. Pourtant, c'est un sentiment de force et d'allant qui nous envahit en les écoutant.
Et voilà, Damien Caprespine, déclaration d'amour en direct.
Super, hein, c'est très bien
résumé. Vous êtes d'accord avec tout ?
J'aime beaucoup, j'adore le champ lexical.
Ah oui ?
Ouais, tout à fait.
Et toutes ces oppositions, le mur contre le doux, c'est une vraie alternative, franchement. Elles sont où, ces machines, physiquement ? Elles sont chez vous ?
Oui, alors j'ai un endroit à Paris que j'ai créé où je peux faire mon travail visuel et mon travail sonore à la fois. Donc mes machines sont beaucoup là-bas. Quand je dis mes machines, je parle évidemment de mes ordinateurs.
Vous leur parlez ? C'est un rapport affectif ?
Il y a un rapport fusionnel, oui, même. Après, moi, j'ai grandi avec les ordinateurs. C'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est que ça fait partie de ma vie. Donc, c'est quelque chose qui est une extension de mon cerveau. Je code, je programme. Donc, il y a un langage entre nous qui marche plutôt bien. Et en même temps, je les questionne beaucoup, ces machines-là, parce qu'elles ont aussi des limites émotionnelles. Et je crois que le cœur de mon travail, c'est toujours de questionner ça. C'est comment est-ce que je peux vivre dans mon époque ? Comment est-ce que je peux vivre avec cette technologie-là et garder le politique de l'émotion dans ma musique, l'idée que l'émotion, elle est le cœur de tout.
Mmh. Alors, tout ce qu'a dit Damien est très vrai, mais a tellement insisté sur votre technologie, sur les machines, on oublie un peu votre voix quand même. Non, mais c'est vrai, deux cordes vocales, un souffle, et voilà.
Oui, bah, de toute façon, la grande histoire de ma vie, c'est ça, c'est le chant. C'est quand j'ai découvert qu'il y avait une connexion directe, un lien. Moi qui suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup les choses, ou en tout cas qui les conceptualise, qui essaye de trouver du sens dans tout, je me suis rendu compte qu'avec la voix, il y avait quelque chose de direct, d'une connexion qui ne passait pas par le cerveau. Il y a quelque chose qui monte directement du cœur à la bouche, sans passer par le cerveau, presque. Et il y a quelque chose de beaucoup plus spontané. Donc cette spontanéité-là d'émotion, elle est très importante aussi pour moi.
Et l'intime est là, clairement.
Pour moi, oui, beaucoup. Beaucoup parce qu'il y a aussi... Je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui avait une voix particulière dans le sens où elle peut être assez faible. Parfois, dans le sens où elle se brise facilement, j'en perds le contrôle très facilement. Et c'est quelque chose qui... Bon, évidemment, je travaille aussi à contrôler ce manque de contrôle, mais c'est quelque chose auquel je suis attaché parce que j'ai l'impression que beaucoup dans ma vie est de l'ordre du contrôle.
Et ouais, ça c'est un grand thème. Hein. On n'a pas le temps de développer tout de suite parce que la pub arrive, mais franchement, on pourrait faire deux heures. Woodkid et dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Nous sommes toujours en compagnie de Woodkid. On va faire un petit rewind, c'est dur à dire, rewind. Revivre l'après folle épopée de votre premier album The Golden Age. C'était en 2013, ça paraît loin déjà, non?
Ça paraît très loin.
Ça paraît carrément une autre vie.
Et pour moi, hier, parce que c'est mon dernier album en date, donc c'est juste, c'est mon actualité la plus récente.
Ouais. Alors, on ne vous connaissait que... Faut qu'on vous aime quand même. Hein.
Oui, bah, bien sûr.
Pour rester fidèle.
Oui.
Ou alors, faut organiser le manque. Bon, enfin, c'est casse-gueule.
Non, c'est une vraie prise de risque ce temps-là, mais les gens sont là, donc je suis content.
Les gens sont là.
On n'a pas oublié, moi qui ai peur de l'oubli.
Donc c'était en 2013, on ne vous connaissait que de loin. Woodkid, on avait bien remarqué que vous étiez le petit français qui travaillait avec Pharrell Williams, Drake, Katy Perry ou Lana Del Rey, notamment pour leurs clips. Et puis est donc arrivé ce premier album de Golden Age. On ne va pas se priver d'en réécouter un titre. Il s'appelle I Love You. Ça me gêne. Belle matinée. I Love You, extrait de votre premier album Woodkid, The Golden Age. Premier album époustouflant. Bah oui, je suis fan. Et alors, je suis pas la seule. 800 000 ventes et 200 dates mondiales. Vu de loin, c'était un rêve. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous de l'intérieur?
Oui, déjà, c'était pas. Je m'y attendais pas. Et puis, maintenant, par exemple, sur le sujet de la scène, je me dis, tiens, j'ai l'impression que je ne sais plus faire. Il faudra que je réapprenne. Et je me suis rendu compte en parlant à beaucoup de musiciens qu'on parte 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans comme moi. Enfin, pas 10 ans, mais il y a toujours ce sentiment-là. Ce sentiment que ce qui a été fait avant est de l'ordre de quelque chose de pas naturel, de pas réaliste, comme une réalité parallèle.
Ce succès massif, qu'a-t-il provoqué en vous?
Du trouble, des questionnements, de la joie... La résolution de certaines choses et l'espèce d'ouverture d'une boîte de Pandore, d'autres questions beaucoup plus deep. Oui, et ben ça change une vie. De toute façon, quasiment du jour au lendemain, on va dire, en l'espace de 6 mois, 1 an, je suis passé de quelqu'un qui ne payait pas son loyer à quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent. Je suis passé de quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes de confiance en soi, qui est rentré dans une ère d'ultra-confiance soudainement.
Trop même.
Oui, évidemment. Mais ça, c'est normal. Ces montées-là et ces descentes-là, elles font partie du mécanisme un peu normal, surtout au début. Ça, il faut juste le regarder avec un peu de tendresse. C'est-à-dire, voilà, il y a eu des moments où j'ai enflé, des moments où je suis redescendu. Ça fait partie de la météo de l'artiste, je crois.
En tout cas, c'est là que vous avez décidé de tenter autre chose. Vous allez nous raconter ça sur Europe 1. Après la pub, ne bougez pas, Woodkid est avec nous ce matin.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Et nous en étions là dans le récit Woodkid, le gros succès de votre premier album, The Golden Age. Et derrière, vous n'enchaînez pas, loin s'en faut, sur un autre album. Et vous avez une autre fixation, c'est le cinéma, c'est ça?
Pas que, mais en tout cas l'idée de m'ouvrir à des nouveaux projets, c'est-à-dire d'essayer peut-être même de valider mon choix de carrière de musique en essayant autre chose pour voir si vraiment la musique me manquait tant que ça.
Et alors ?
Elle m'a beaucoup manqué. Mm-hmm. Elle m'a beaucoup manqué, puis je me suis rendu compte que j'étais pas si bon, par exemple, en écriture sur le sujet du... Ou en tout cas, pas trop vert, pas encore prêt à écrire. Voilà, je me suis pris pas mal d'échecs personnels dans la gueule parce que... voilà, c'est des sujets qui sont difficiles, c'est pas, on n'est pas auteur, donc voilà, je ne désespère pas, je suis quelqu'un qui a beaucoup de résilience, donc j'y arriverai.
Tout ce temps-là, donc, vous avez essayé.
Essayé.
Ça prend du temps d'essayer.
Ça prend du temps d'apprendre, surtout. Parce qu'essayer pour essayer, ça ne sert à rien, mais essayer pour apprendre, ça c'est mieux.
Ouais.
Apprendre, ça prend du temps. J'avais envie d'apprendre plein de choses des autres, de moi-même, avec mes propres moyens, de découvrir des choses sur... mes outils, sur les choses que j'avais à dire, sur ma voix, sur la musique en général, rencontrer des gens, voilà, donc des collaborations pendant ces dernières années où j'ai pu être un peu plus dans l'ombre, mais où j'ai pu apprendre plus que je n'aurais appris en restant fixé dans ma petite musique et dans ma petite tournée.
Donc le cinéma est juste mis de côté, vous réessayerez à un moment donné ?
Oui, mais de toute façon, écrire et rater, c'est pas rater en général, c'est... J'apprends les choses à ne pas faire, en tout cas, c'est déjà pas mal.
Bah, c'est bien.
Ouais.
Mm-hmm. Vous allez éviter ces pièges-là la prochaine fois.
Oui, et puis de toute façon, je me dis tout le temps, je peux avoir 60 ans et faire un long métrage. Est-ce qu'à 60 ans, je pourrais encore sauter dans tous les sens sur scène ? Je ne sais pas.
Il y a un mot que vous avez prononcé à plusieurs reprises déjà depuis que vous êtes là ce matin avec nous, c'est résilience.
Oui.
Qu'est-ce que vous mettez là-dedans ? Parce que vous voyez, par exemple... Pour prendre un exemple dans le langage public, Emmanuel Macron, récemment, il a lancé une opération résilience pendant...
Ouais. Je suis macroniste.
C'est pas ce que je dis, non.
Ah bon,
mais bon,
j'emploie des
éléments. Il n'y a pas de hasard.
Des éléments d'anglais. non, mais j'aime bien l'idée de... j'aime bien l'idée que l'époque demande une certaine force et que parfois, cette force-là, il y a un rapport avec le temps. Moi, c'est vraiment un sujet. La résilience et le temps, c'est quelque chose qui est très important pour moi en ce moment. J'ai encore du mal à le formuler parce que je suis encore dans la campagne de cet album et je suis encore en train, même en interview aujourd'hui, de digérer cette absence-là qui, pour moi, c'est pas parce qu'on disparaît médiatiquement qu'on n'existe plus. Et en fait, j'ai eu l'impression d'exister plus pendant ce temps-là et d'être dans un vrai travail de résilience parce que justement, j'ai travaillé à m'armer plus pour l'époque qui allait arriver aujourd'hui. Je savais que si je me relançais dans un album, j'aurais peut-être pas la force qu'il fallait. Donc il a fallu ce temps pour gagner cette force-là, pour être capable d'affronter ce qui va arriver là, et j'espère la scène et peut-être une forme de succès si tout se passe bien. Pour moi, il n'y a que le temps. Ça va ensemble, en fait.
Mm-hmm. Sans ce satané Corona, Woodkid, vous auriez attaqué votre tournée mondiale le 19 mai dernier,
ouais,
en Pologne. Pardon de remettre le couteau dans le plat. Alors qu'il est... Vous y pensez souvent, vous auriez...
Non.
Non ?
Non, j'y pense pas parce que sinon, enfin, ça sert à rien.
Ouais.
Ça sert à rien, c'est comme ça. Je suis assez... mes problèmes sont assez mondains et bourgeois, en fait, à côté de la réalité du monde. Donc, c'est ce que c'est. C'est-à-dire que je suis triste pour les fans qui ne peuvent pas venir en concert maintenant, mais ils pourront le faire plus tard. Et je donnerai d'autant plus... aussi parce que du coup les concerts auront d'autant plus une résonance par rapport à l'époque. J'espère juste qu'ils arriveront un jour.
Pourquoi en tout cas ce début de tournée en Pologne ?
Bah parce que il y a plusieurs raisons. La raison romantique, c'est que c'est mes origines, et la raison moins romantique, c'est que c'est là où on a eu les premières offres et que c'est là qu'on a décidé de démarrer parce que de manière pragmatique, c'était plus pratique.
On va garder la romantique.
Voilà, gardons la romantique.
Ça sera une grosse, quand ça arrivera, on ne sait pas, ce sera une grosse tournée. C'est toujours une grosse tournée mondiale avec vous. Vous
êtes, ouais.
Vous avez des publics partout dans le monde, c'est étonnant ça aussi, non ?
Oui, quasiment, ouais. Donc, je ne saurais pas l'expliquer, c'est une chance folle. La première tournée, c'était un rêve fou, quoi. C'était de pouvoir jouer dans à peu près tous les pays du monde, quoi. Et de faire ça le comble, tout ça, c'est un truc qui j'aurais jamais pensé que ça arriverait un jour.
Et du coup, il y a eu des ambiances parfois étonnantes dans certains pays.
Oui, il y a des pays qui sont forcément plus chers à mon cœur, mais ça c'est normal. C'est marrant, vous parlez de la Pologne, j'ai un souvenir en Pologne à Varsovie, complètement dingue, d'une foule en furie totale. Voilà. Et c'est très dur à expliquer pourquoi, des fois, certaines villes, certains pays, les gens sont plus fous que d'autres.
Mais peut-être que c'est vous qui...
Non, parce que des fois, peut-être ça ne marche pas. Des fois, les gens restent assis, ils ne bougent pas.
Où est-ce qu'ils sont restés assis?
C'est peut-être moi qui ne suis pas bon, des fois. Je ne sais pas, quand ils sont assis, ceci.
Dans certains pays, il y a peut-être des pays où ils restent assis, et ce n'est pas pour autant une marque de désintérêt.
Oui, mais quand on veut les faire se lever, c'est un problème.
quelques mots de votre confinement, ça s'est bien passé, et qu'avez-vous fait? Vous avez tué le temps?
Oui, alors je n'ai pas tué le temps, j'ai fait un clip. En fait... J'étais un très très bon élève du confinement. Je suis resté chez moi, je ne suis pas sorti une seule fois, je me suis fait livrer mes courses une fois par semaine. J'ai ramené tous mes ordinateurs justement de mon atelier chez moi et j'ai travaillé sur ce qui aurait dû être un clip qu'on aurait dû tourner en prise de vue réelle, c'est-à-dire avec une équipe de tournage qu'on n'a pas pu faire. Et j'ai fait ce clip en 3D, en effets spéciaux avec ma tête et les machines pendant le confinement. C'était mon sujet de confinement, j'avais l'impression d'être assigné à domicile pour faire un exercice.
Au moins, vous avez fabriqué quelque chose, c'est pas
oui,
mal.
Oui, il fallait trouver du sens, sinon c'était pour rester chez moi en slip et manger des pizzas et devenir gros. C'était pas la peine.
On a une info, là, mine de rien.
Ouais.
Porte des slips?
Non, je porte des slips et j'ai mangé des pizzas et j'ai un peu grossi aussi.
À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Woodkid, pour quelques minutes encore dans Culture Média, l'album attendu avant la fin de l'année, La Promesse est rééditée, j'ai pas pu avoir la date, mais enfin bon, personne n'en sait rien en réalité.
Moi non plus.
C'est ça. Vous avez revu de vieux films pendant le confinement, ça vous...
Des films?
Ouais, des vieux films.
Ah, des vieux films, non pas non. Vraiment. Ah si, j'ai revu L'Histoire sans fin.
Ah oui, pour le coup. Cet été, Culture Média se souvient de films autour de l'été, du soleil, de quelques rapprochements estivaux, parfois fatals. Sous le ciné exactement, ce matin, Julien Cotreau vous raconte La Piscine, film de Jacques Deray, 1969, avec Alain Delon et Romy Schneider.
Nous sommes en 1967. Le réalisateur de films policiers Jacques Deray souhaite changer de style et confie à Jean-Claude Carrière l'adaptation du roman La Piscine, rédigé par un certain Alain Page. L'histoire de Marianne et Jean-Paul qui reçoivent Harry et sa séduisante fille Pénélope dans leur villa de la Côte d'Azur. Côté casting, Deray demande à Maurice Ronet d'incarner Harry, Jane Birkin, Pénélope et Alain Delon, Jean-Paul. Pour le rôle de Marianne, Delon impose Romy Schneider, avec qui il a rompu 4 ans auparavant, après 5 années de relation.
Jacques voulait tourner avec Monica Vitti, les producteurs voulaient tourner avec Monica Vitti ou prendre une américaine qui s'appelait Angie Dickinson. Et moi j'ai dit au bout d'un moment, ne perdez pas votre temps, ce sera Romy, il n'y aura pas de film. Hein. Comment, Romy Schneider, si, machin, c'est pas pour le film, pas possible. Je lui ai dit, écoutez, moi je connais Romy, je vous le dis, si on ne fait pas le film avec Romy Schneider, vous le ferez avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi.
Et Jacques Deray finit par accepter. Voyant bien que le passé intime entre Romy et Delon sera un atout pour le jeu du couple à l'écran, le tournage peut commencer, c'est l'été 68, quelques semaines donc après les manifs du mois de mai. Jean-Claude Carrière, le co-scénariste, en garde un souvenir particulier.
C'était une année où moi j'avais deux films qui se tournaient en même temps. L'autre était La Voie lactée de Buñuel et où le pièce de théâtre qui commençait au mois de septembre. Tout ça... Ces projets avaient été remis en question au mois de mai. On se demandait si même le cinéma allait reprendre, si le théâtre allait reprendre. Et puis, à partir de la fin de la crise de mai, tout s'est remis en marche rapidement et avec une énergie nouvelle. On était tous heureux de retravailler, parce qu'on avait craint à un moment donné de ne plus pouvoir.
Et nous y voilà. Marianne et Jean-Paul forment un couple qui séjourne dans une somptueuse maison avec piscine, située sous le soleil de plomb des hauteurs de Saint-Tropez. Marianne reçoit un coup de fil. C'est son amie qui la prévient de son arrivée imminente. Sur la terrasse, elle tente d'annoncer la nouvelle à Jean-Paul.
Devine qui c'était.
Je m'en fous.
C'était Harry.
Il est dans le coin ?
Oui.
Quand on est planqué quelque part, le premier qui téléphone, c'est toujours lui.
Sauf que Harry est ni plus ni moins que l'ex-amant de Marianne. Le malaise entre les personnages va très vite s'installer.
Les restaurants à Amsterdam, les restaurants indonésiens, superbes. Rappel.
Et sa fille Pénélope enfonce le clou un soir face à Jean-Paul.
Il dit qu'il en avait assez de Marianne, qu'il vous la cède, mais qu'il peut la répondre quand il voudra. Il dit que vous n'avez aucun talent, rien. ne vous aime pas. N'aime personne. Mais il veut que tout le monde l'adore.
Et c'est à coups de regards et de sous-entendus qu'une lutte de pouvoir se propage dans ce huis clos qui fera plus de 2 millions d'entrées en janvier 1969. Le JDD titre à la sortie du film « Une mise en scène à contre-courant des modes, donc qui ne risque pas de se démoder en une saison ». Indémodable et donc intemporel, Jean-Claude Carrière.
Je l'avais dit, je me rappelle un journaliste à l'époque, et il m'avait dit pourquoi. Je lui ai dit parce que tout le monde est en maillot de bain, et la mode ne vieillira pas. Ça joue beaucoup, le film pourrait avoir été tourné il y a 2 ans. Jacques Deray avait fait très attention à ça, au fait de le situer d'une manière presque intemporelle, que ça ne soit pas lié à 68, que ça... Même Saint-Tropez est évoqué d'une manière très épisodique, très très légère au passage.
Et rien de plus facile aujourd'hui pour voir ou revoir La Piscine. L'année dernière, pour le 50e anniversaire du film, a été édité un coffret DVD Blu-ray comprenant bonus et documentaire réalisé par Agnès Vincent Deray. L'occasion aussi d'écouter la bande originale composée par Michel Legrand. What a dirty...
Sous le ciné exactement, La Piscine, vue et revue par Julien Cottreau. Vous connaissez La Piscine, Woodkid ?
Absolument.
Vous aimez ?
Oui.
Ça tombe bien. On finit avec Première Page. Vous découvrez en avant-première tout l'été le début, la première page des livres de la rentrée. Ce matin, Le Fumoir de Marius Geoffrey apparaît le 4 septembre chez Anne Carrière. Place des Vosges. La nuit s'écoule lentement. De peur qu'une mauvaise nouvelle ne vienne entamer mon moral déjà bien bas, j'éteins mon portable. La terrasse commence à se vider. Je vais pouvoir déprimer tranquille. Sauf que déprimer tranquille, ce n'est pas pour ce soir. Les tremblements qui agitent mes mains n'annoncent rien de bon. C'est le manque d'alcool. Je dois boire encore. Ce serait possible d'avoir une lèvre ? Le serveur hoche la tête pour dire oui. Avec une paille ? Il m'apporte la bière sans commentaire et sans paille. Avisant les milkshakes abandonnés par 2 américaines à chapeau, j'attrape la paille la moins mordillée. J'aspire ma bière à petites gorgées. À peine ai-je fini mon verre que mes mains et mes jambes se mettent à trembler plus fort. Des crampes parcourent tout mon corps et m'obligent à agripper ma chaise. La crise s'annonce. Je ne veux pas tomber ni gesticuler par terre comme un épileptique. Mon frère habite dans le coin. Je ne suis pas étonnée de le voir se matérialiser à l'angle de la rue des Francs-Bourgeois et de la place des Vosges. D'ailleurs, je me suis sans doute installée à cette terrasse avec l'espoir qu'il finisse par tomber. On s'arrête, hein, c'est la première page. Le Fumoir de Marius Geoffrey, le 4 septembre chez Anne Carrière. Il faut parler très très vite. Au revoir, Woodkid. Et merci beaucoup, beaucoup.
On est très en retard.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Comme dans les pubs.
Oui, à bientôt. À très bientôt.